Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons commencer cette table ronde avec un tout petit peu de retard, mais les transports nous ont joué quelques surprises. Par la table ronde qui, de mon point de vue, est probablement évidemment la plus intéressante de l'ensemble des journées de l'économie de Lyon et certainement la plus polémique, puisque les économistes vont se regarder dans le miroir. Et je pense que il faut d'ailleurs les saluer pour cet exercice courageux qu'on va leur demander. C'est vrai que la crise a conduit à une vraie remise en cause du rôle des économistes. On leur a reproché de n'avoir absolument rien vu, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Et puis aujourd'hui, on peut se demander s'ils ont vraiment les idées pour nous permettre d'en sortir. Il va y avoir une réunion du groupe des 20, du G20 à Séoul. La France va prendre la présidence du G20 pour un an. Et on est à un moment, on en parle dans tous les journaux, dans tous les bons journaux économiques, absolument crucial. Le monde reste très imprévisible. La reprise est là, mais on ne sait pas si elle va durer. On sait qu'aux États-Unis, la Fed en particulier, la Réserve fédérale, la Banque centrale, mène une politique monétaire extrêmement agressive qui conduit à une quasi-dévaluation compétitive du dollar, qui pose évidemment un problème majeur pour la croissance durable. Et un monde global. Évidemment, il y a l'éruption de la Chine qui bouleverse complètement les cartes. Et on a envie de savoir, est-ce que les économistes, finalement, ont encore un rôle à jouer? Est-ce qu'ils influencent positivement? De quelle manière est-ce qu'ils influencent le débat économique? Alors, la question qui est posée est principalement pour la politique économique française. Mais je crois qu'avec le panel de représentants d'économistes éminents que nous avons avec nous ce soir, je pense qu'on pourra, je pense, dans un monde complètement global et interdépendant, on ne pourra pas échapper quand même à cette question au niveau évidemment mondial, parce qu'il n'y a pas une politique économique, il y a évidemment des politiques économiques qui doivent se coordonner, sinon s'affronter, pour éviter l'affrontement. Alors pour commencer, je ne vais pas présenter l'ensemble des intervenants de façon fastidieuse au début de la conférence, je les présenterai au fur et à mesure. Évidemment, on veut garder une bonne vingtaine de minutes au moins de temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc je passe tout de suite la parole à Alain Tranois, qui est un des promoteurs évidemment des journées de l'économie. Il a déjà participé, je crois, à deux débats aujourd'hui, mais il n'est pas fatigué. Et donc, pour le présenter rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de l'Institut d'économie publique à Marseille, également conseiller scientifique au CAS, et il est membre du Cercle des économistes. Alors, il faut que je dise, je ne l'ai pas dit, nous avons deux absents qui n'ont pas pu nous rejoindre, qui sont Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Christian Deboissieux, qui en est le vice-président. Mais le Cercle des économistes est très bien représenté, puisque je crois que la quasi-totalité des personnes qui sont là en font partie, sauf peut-être Pierre Alain Muet, mais lui, on le verra tout à l'heure, il a largement sa place évidemment à cette table ronde. Alors pour commencer donc Alain Tranois, un mot d'introduction pour poser le problème du rôle des économistes et finalement leur capacité d'influence.
Bien, merci, bonjour à vous tous et merci d'être venus nombreux pour cette table ronde. Donc initiée effectivement par le Cercle des économistes, et Philippe Mabille a juste apporté un petit livre que le Cercle des économistes avait édité, qui a été un petit peu le point de réflexion, qui s'appelle « À quoi servent les économistes ?». Vous l'avez peut-être vu à la Chambre de commerce en présentation. Et donc le point de départ, c'est de se dire que donc, lorsqu'on écoute la presse, lorsqu'on écoute... on écoute les médias, on a un peu l'impression que les économistes sont partout. On nous demande notre avis sur énormément de problèmes économiques. Et donc, le grand public peut avoir l'impression qu'on a une énorme influence sur la conduite de la politique économique. Et lorsqu'on vit de l'intérieur, lorsqu'on est économiste, on a plutôt, je dirais, l'impression contraire. Il y a plutôt un sentiment de frustration et le sentiment qu'on n'influence peut-être pas assez la politique économique. Alors, quand je parle de politique économique, je pense que ce sera d'ailleurs intéressant, ce sera une grille de réflexion intéressante pour l'ensemble des intervenants. Je pense qu'il faut distinguer, je dirais, la politique macroéconomique, par rapport auxquelles les économistes n'ont pas énormément de concurrents, je dirais, en termes de spécialistes, et puis, je dirais, les réformes structurelles, par exemple sur le marché du travail, les marchés financiers et le marché des biens, les différentes politiques que l'État mène en termes d'éducation, d'environnement, de logement, d'emploi, de santé, etc., sur lesquels on peut toujours s'interroger sur l'évaluation des politiques publiques et sur les formes, disons, plus structurelles qu'il faudrait mettre en place. Et je dirais que l'interrogation, évidemment, est sur la place des économistes dans le débat public et porte à la fois, je dirais, sur les deux volets. Alors, ce sentiment de frustration, évidemment, il peut se nourrir d'une comparaison éventuellement avec des exemples étrangers, en particulier aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. J'espère que différents intervenants auront l'occasion d'exprimer un point de vue sur le fait de savoir est-ce que les économistes français sont plutôt relativement moins influents que leurs collègues dans d'autres pays, dans d'autres démocraties. Alors, j'ai juste listé une petite série de raisons pour lesquelles les économistes auraient peut-être moins d'influence qu'on ne pourrait ne penser. La première raison, ça serait, et donc finalement, ces raisons se divisent entre les raisons qui ont trait à des problèmes d'émission, c'est-à-dire de la part des économistes, ou à des problèmes de réception, c'est de la part des médias ou des hommes politiques ou des décideurs ou de tous ceux qui les entourent. Donc problème, je dirais, d'émission, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Il est évident que si les économistes sur une question ne sont pas d'accord entre eux et envoient un message troublé, il peut être clair que leur influence collective en sera d'autant affaiblie. Ensuite, deuxième question, c'est que les questions, en particulier les questions structurelles, mais il peut y avoir aussi des questions macroéconomiques extrêmement compliquées, c'est que les économistes ne savent pas grand-chose par rapport à un problème. Et effectivement, on a pu voir que, par exemple, par rapport aux problèmes systémiques de la crise, c'est vrai que c'est des problèmes que les économistes avaient relativement peu pensé et qu'ils ont pris, nous avons été pris collectivement un petit peu par surprise, même si chaque élément, je dirais les asymétries d'information, les problèmes de politique monétaire avaient quand même été débattus d'une manière beaucoup plus intensive entre nous. Donc deuxième, les économistes ne savent pas grand-chose. La troisième, c'est, je dirais, moins grave, c'est que les économistes ne savent pas faire passer les messages. Soit parce que la matière est compliquée, donc soit ils sont obligés de trop simplifier, et à ce moment-là, il y a une sorte de dilution dans la transmission aux différents conseillers, ou tout simplement par vraiment pur défaut pédagogique, et de ne pas faire apparaître vraiment les clairs enjeux. Enfin, le dernier défaut, c'est un défaut là plutôt, je dirais, du côté des hommes politiques et de leur entourage, c'est un défaut de réception, qui serait que les hommes politiques ou leurs conseillers ne les écoutent pas et cherchent plutôt à les instrumentaliser. C'est-à-dire que ça se fait, c'est bien d'écouter des économistes, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on va écouter leurs conseils, on va simplement prendre leurs conseils simplement pour justifier une politique qui a déjà été décidée par ailleurs en fonction d'autres impératifs, en particulier des impératifs politiques. Donc voilà, je dirais, un peu cette grille de lecture que je vous propose. Vous pouvez évidemment vous en échapper, mais c'était juste pour initialiser le débat.
Merci beaucoup Alain Tranoin. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, puisque vous l'avez compris, cette question économique est aussi une question politique. Et on va écouter pour ce faire Pierre-Alain Muet. Pierre-Alain Muet qui est évidemment d'ici, hein, qui est député du Rhône, mais qui a été le premier président du Conseil d'analyse économique, qui a été la première tentative, finalement un premier, Lionel Jospin avait mis en place un peu quelque chose qui existe d'ailleurs aux États-Unis depuis longtemps, un conseil d'experts économiques autour de la Maison Blanche. Et vous avez donc été le premier président du Conseil d'analyse économique. En même temps, vous étiez aussi le conseiller économique de Lionel Jospin. Et vous avez été, à ce moment-là, proche du pouvoir qui a mis en place les 35 heures, les emplois jeunes, toute une politique économique qu'on pourrait qualifier à l'époque de keynésienne, et en tout cas qui allait vraiment dans ce sens. Est-ce que vous avez l'impression que les économistes, en tout cas à cette époque-là, étaient entendus, étaient écoutés, ont vraiment influencé les choix qui ont été menés? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, est-ce que les économistes sont entendus aujourd'hui? Ils sont écoutés aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, on auditionne presque toutes les semaines des économistes sur la crise, sur la plupart des sujets. Donc, Je trouve qu'il y a bien une période où les économistes ne devraient pas être trop frustrés, c'est plutôt celle-ci. Mais je vais revenir sur la création du Conseil d'analyse économique, parce que c'est vrai qu'en 1997, le Premier ministre qui est arrivé aux affaires, Lionel Jospin, avait l'idée de créer en France ce qui existait aux États-Unis, c'est-à-dire un conseil économique, un certain nombre d'économistes avec un chef économiste qui participait au débat de politique économique. Aux États-Unis, c'est un système très spécifique qui existe depuis très longtemps. C'est trois conseillers qui sont des universitaires, dont un chef économiste, qui participent réellement à la mise en œuvre de la politique économique. Et en France, on a créé quelque chose, je trouve, d'assez original, qui existe encore. C'est dommage que Christiane Boissieu, qui est l'actuelle présidente, ne soit pas là. Il pourrait donner le point de vue sur le fonctionnement actuel. En tout cas, la volonté du Premier ministre de l'époque, c'était de créer quelque chose qui ressemble au Council of Economic Advisors. Et c'était en même temps de dire que les grands choix de politique économique devaient être tranchés par le Premier ministre, en liaison étroite avec son ministre du Travail, c'était Martine Aubry, son ministre des Finances, c'était Dominique Strauss-Kahn, et puis ses conseillers économiques. Et on a essayé de réfléchir à une institution qui permettait de nourrir la politique économique du gouvernement par la réflexion des économistes. Et on a abouti à l'idée, qui n'était pas naturelle en France, qu'il fallait créer une institution pluraliste, c'est-à-dire qu'il fallait faire en sorte que le Premier ministre puisse écouter tous les économistes. Alors, créer une institution pluraliste auprès d'un Premier ministre, c'est-à-dire avec des économistes de gauche, de droite, c'est pas facile. C'est pas facile, ça suppose de mettre des règles. Et pour créer une telle institution, il a fallu effectivement définir des règles de fonctionnement. J'ai consulté beaucoup d'économistes, notamment ceux qui n'étaient pas proches du pouvoir, pour savoir à quelles conditions il pouvait accepter de venir débattre de la politique économique auprès d'un Premier ministre. Et je trouve que ce dialogue a été extrêmement efficace. Je me souviens d'ailleurs que les Échos, à l'époque, ça rappellera peut-être quelque chose à Philippe Mabille.
À l'époque, j'étais aux Échos, mais j'ai changé de camp depuis. Oui. Précise pour ceux qui
les
le
Échos,
savent.
À l'époque, avaient fait plusieurs articles sur à quoi pouvait ressembler un conseil économique auprès d'un Premier ministre. Et les réflexions que j'ai conduites avec Lionel Jospin ont conduit à créer un conseil institutionnalisé comportant une quarantaine d'économistes, placé auprès du Premier ministre, présidé par le Premier ministre, mais avec l'idée que le but, c'était que le Premier ministre écoute le discours des économistes. Et donc, il a fallu faire quelques petites révolutions culturelles par rapport à la tradition française, qui était que l'administration forgeait la pensée économique du gouvernement. Et cette tradition, c'était de dire bien, tout simplement que ce conseil, il a vocation à éclairer le Premier ministre, pas à décider évidemment la place des politiques. Et ça nous a conduit à faire en sorte que les travaux de ce conseil soient publics, soient publiés, n'engagent que les auteurs des rapports, et que naturellement, pour refléter la diversité de la réflexion économique, chaque rapport devait faire l'objet d'une discussion approfondie et être publié. Alors moi, quand j'ai commencé à parler au sein du cabinet de Lionel Jospin d'une institution auprès d'un Premier ministre comportant des économistes de toute opinion qui publierait des rapports sur tous les sujets que lui posait le Premier ministre, on m'a dit que j'étais en train de créer une bombe au sein de Matignon. Et en réalité, je pense que le fait de publier ces rapports a permis effectivement au Conseil d'analyse économique de jouer pleinement son rôle et au Premier ministre de jouer le sien, qui est de choisir, qui est de garder sa liberté de choix. Après tout, un choix de politique économique, c'est d'abord un choix politique. Et le fait que ce soit éclairé par la réflexion des économistes de toute opinion, moi, je crois que c'est un avantage. C'est un avantage énorme. Je ne crois pas que le consensus des économistes puisse servir vraiment le pouvoir politique. Je pense qu'en économie, il y a des choix. J'ai jamais cru à la pensée unique. La pensée unique, c'est un petit peu un produit de l'administration. Et d'une certaine façon, je trouve que le Conseil d'analyse économique a fait éclater cette idée que, bah, qu'il fallait offrir qu'un seul choix aux politiques. Et je pense que c'est peut-être ce qui a conduit à ce succès du Conseil d'analyse économique, puisqu'il a résisté au départ de son premier président. Il a résisté à l'alternance, il continue à fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, il a publié une centaine de rapports. Moi, je suis, comme député, j'utilise abondamment les rapports actuels du Conseil d'analyse économique. Mais il avait cette particularité d'être présidé par le Conseil, par le Premier ministre. Donc le Premier ministre venait écouter les économistes, ce qui n'est pas toujours très facile dans l'activité d'un Premier ministre. Mais je crois que ça a permis effectivement d'influencer, d'apporter des propositions intéressantes à la politique économique. Il y a beaucoup de sujets qui sont nés des débats de ce Conseil, la prime pour l'emploi, le fonds de réserve des retraites, beaucoup d'autres sujets, on pourrait en citer beaucoup. Je pense que ça a dû être un peu la même chose par la suite. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a eu d'autres expériences de Conseil économique. Keynes en avait créé un auprès du Premier ministre anglais dans les années 30. Et Keynes avait l'idée que pour influencer, il fallait créer le consensus. Il n'a jamais réussi, évidemment, à créer un consensus parmi les économistes anglais. Et de ce fait, ce conseil n'a pas duré. Moi, je crois au contraire que ce qui est important pour la politique économique, c'est le débat. Plus on laisse le débat se dérouler, plus on donne les moyens aux politiques de faire les bons choix, mais ça reste des choix politiques.
Alors, vous êtes député socialiste, je ne l'ai pas précisé, on a bien compris puisque vous étiez auprès de Lionel Jospin, et j'ai envie de vous poser une question quand même pour agiter un peu les esprits. Est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'économiste, ancien conseiller de Lionel Jospin, venir des idées nouvelles, économiques notamment, à gauche, aujourd'hui? Juste pour contextualiser, il y a un projet là qui est en train d'être discuté, par exemple sur l'égalité réelle. On a l'impression de lire un vieux programme du Parti socialiste des années 70.
Oui, merci de me poser la question parce qu'au sein du Parti socialiste, j'essaye d'animer ce que Martine Aubry avait appelé un conseil d'analyse économique, moi que j'appelle un conseil économique. Pour moi, il n'y a qu'un conseil d'analyse économique. Mais oui, le Parti socialiste a des idées. On en exprime tous les jours à l'Assemblée nationale. Depuis longtemps, on dit qu'il y a une réforme majeure à faire en France. On a une fiscalité qui est devenue d'une injustice complète. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait le faire dans...
Vous pouvez en dire quelques mots. On y était avec Alain Tradon, avec Thomas Piketty qui présentait son projet.
On a par exemple une imposition du revenu qui s'est réduite comme une peau de chagrin, alors que c'est 10% du PIB dans la plupart des pays, c'est 3,5% chez nous. À côté de ça, on a une CSG qui n'a cessé de grandir, qui n'est pas un impôt progressif. On a besoin de faire une réforme majeure. On a une fiscalité qui est complètement mitée. Vous avez en tête les débats sur les niches fiscales. Aujourd'hui, quand vous êtes très riche, vous pouvez complètement vous exonérer d'impôts en utilisant ces niches fiscales. Vous pouvez arriver à avoir 16 millions d'euros de patrimoine et déclarer un revenu imposable inférieur au RSA. Si vous y rajoutez le bouclier fiscal, vous faites rembourser tout le reste de vos impôts, y compris la CSG et les impôts locaux. On voit bien qu'on a besoin d'une réforme majeure. Je crois que c'est un débat qu'on a lancé. En tout cas, moi, je l'ai lancé en écrivant deux petits livres sur ce sujet. Ça a été repris par d'autres socialistes, François Hollande, par exemple. C'est un des sujets majeurs. Je crois que ce sujet est en train de monter dans le débat. Et que ce
sera le sujet de l'élection présidentielle.
Je crois que ce sera le sujet majeur pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une dette et un déficit qu'on n'a jamais connu en temps de paix. La dette de la France a doublé en 10 ans, c'était 900 milliards d'euros, c'est passé à 1800, ça passera, pardon, à 1800 en 2012. Donc il y a un vrai sujet et je pense qu'il faudra commencer par une réforme fiscale majeure. Il y a bien d'autres sujets, la question de l'emploi me paraît cruciale. Quand on regarde simplement la France et l'Allemagne dans cette crise, on oublie, par exemple, que certes, l'Allemagne a souffert de la crise comme nous, mais son chômage a baissé pendant la crise parce qu'elle a utilisé, sans aucune vision idéologique, la réduction du temps de travail, ce qu'on appelle le chômage partiel, qui est du travail à temps partiel. Enfin bref, l'Allemagne a eu une politique de l'emploi là où la France ne l'a pas eu.
La France a beaucoup utilisé le chômage partiel pendant cette crise.
Mais pas suffisamment. Et en tout cas, la France a subventionné des heures supplémentaires dans une crise. Je pense que ce sera aussi un cas d'école pour les économistes.
Bien, on va arrêter là, mais on reviendra sur l'ensemble de ces débats. On va écouter un autre économiste qui connaît bien le pouvoir, Jean-Michel Charpin. Vous avez dirigé l'INSEE, donc l'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques Économiques, institut qui, normalement, est considéré comme indépendant, en tout cas dans la formation de ces statistiques, même si, évidemment, sa relation à l'État, et notamment à Bercy, est forte. Et aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil d'orientation des retraites. Vous avez participé à un débat, je crois, hier sur les retraites. Et on est très clairement aujourd'hui au cœur de toutes ces questions. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous, de ce que les économistes ont pu ou pas influencer, finalement, notamment à l'occasion de cette réforme des retraites?
Oui, pour me découvrir, moi, je vais défendre l'idée que les économistes ont une influence en France au moins équivalente à celle qu'ils ont dans les pays étrangers. Et si j'ai le temps, mais ce n'est pas sûr que je l'aurai, je défendrai volontiers l'idée qu'en revanche, du fait des spécificités du système de formation, ce qu'on appelle en France un économiste peut, dans certains cas, être un peu différent de ce qu'on appelle un économiste au niveau international. Alors, les économistes, à mon avis, ont une influence significative en France sur la politique économique, mais à condition d'admettre une évidence, c'est que la politique économique est d'abord déterminée par des choix politiques qui résultent de procédures démocratiques et qu'après tout, c'est très bien comme ça, et qu'il ne faut pas chercher à inventer un monde dans lequel les choses se passeraient différemment. Je prends un exemple. La loi TEPA de 2007, qui a mis en œuvre un nombre assez important de niches fiscales de grande ampleur. Je ne connais pas d'économiste qui, ni avant, ni pendant, ni après, ait soutenu la pertinence des niches fiscales en question. Mais il faut accepter.
Il y en a un, c'est Rex Ecod qui avait soutenu la défiscalisation des charges sur les heures supplémentaires.
Il faut accepter de temps en temps que ça puisse conduire
une étude restée célèbre pendant la campagne.
À des choix sous-optimaux. Après tout, les décisions en question résultaient clairement des engagements qui avaient été pris au cours de la campagne électorale. Et il n'est pas anormal que les engagements pris au cours d'une campagne électorale soient appliqués. Et il ne revient pas à des techniciens, fondamentalement, de remettre en cause des choix qui ont été démocratiquement validés. On pourrait dire un peu la même chose, je dis ça pour Alain, pour la baisse de la TVA sur la restauration, sur le sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. Et je dirais, en élargissant encore plus, il me semble que c'est une caractéristique assez fréquente des décisions fiscales. Parce que les décisions fiscales ont à la fois des impacts distributifs, qui joue sur la répartition des revenus, et des impacts incitatifs qui modifient les comportements des acteurs. Et les économistes, eux, ils se prononcent surtout sur les impacts incitatifs. Sur les impacts distributifs, les économistes, ils sont assez gênés pour prendre position. Et après tout, si démocratiquement la fiscalité décide de favoriser une couche sociale, une profession, voire un lobby, les économistes, sur ce pur sujet-là, souvent n'ont pas grand-chose à dire, et c'est pourquoi, après tout, il n'est pas illégitime que ce soit la décision politique qui l'emporte, et c'est très bien comme ça. Alors, quels sont les moyens par lesquels les économistes influencent la décision? Ils sont très multiples. Pour faire une typologie simple, je veux au moins en citer trois. Il y a d'abord les économistes qui travaillent au sein de l'État, au sein de l'administration. Il ne faut pas sous-estimer leur rôle, même si ils sont plutôt dans le réglage fin, ils sont plutôt dans la mise en œuvre. Mais quelquefois, leur rôle peut être plus inventif que ça, peut être plus propositionnel que ça, et au total, ils peuvent, dans certains cas, avoir une influence qui n'est pas négligeable. Il y a un deuxième canal qui est juste à l'extrême opposé, c'est la participation au débat public. On pourrait dire que quand à quelques-uns on a créé le cercle des économistes il y a 18 ans, c'était justement parce qu'on avait le sentiment qu'en France, les économistes étaient, même sur les questions économiques, insuffisamment présent dans le débat public et qu'on souhaitait, et ça a connu quelques succès, influencer le débat public, en tout cas y intervenir et faire en sorte qu'il soit actif, qu'il y ait une véritable contribution à la vie démocratique des économistes. Je crois que c'est un rôle utile des économistes. Et puis il y a une troisième catégorie d'intervention qui me paraît importante, dans laquelle d'ailleurs personnellement j'ai pas mal donné, je fais partie des économistes qui, quand sur Google, ils remplacent leur prénom par rapport, voire le nombre de liens qui augmente, c'est tout ce qui passe par des rapports ou par des commissions. Contrairement à l'adage qui est quelquefois attribué à Georges Clemenceau, il n'est pas vrai le plus souvent que quand un gouvernement veut enterrer un problème, il crée une commission. En fait, le plus souvent, quand un gouvernement crée une commission ou demande un rapport, c'est quand même qu'il a vaguement dans l'idée de s'occuper du problème en question. Et donc, d'une certaine façon, c'est plus efficace que les interventions à l'aveugle des économistes, parce que quand il y a une commission, quand il y a un rapport, en général, il y a du côté de l'exécutif une certaine volonté d'essayer de traiter le problème.
Si je puis me permettre, juste rappeler que vous êtes l'auteur du rapport Charpin sur les retraites qui avait été commandé par Lionel Jospin en 97, voilà, et que, évidemment, c'est le rapport qu'il avait certainement l'intention de le faire.
Une grande fortune.
Et c'est François Fillon qui a mis en œuvre
le Premier ministre suivant.
La réforme. Donc je ne sais pas si ça vous suggère quelques commentaires, mais ça prouve qu'il faut du temps, probablement, pour qu'une réforme passe dans l'opinion aussi. Que l'économiste, entre ce qu'il dit et le moment où l'opinion va finalement... considérer que le sujet est mûr, ça, et politiquement, ça peut prendre du temps.
Le rapport avait été réalisé en 99. Pierre Alain, à l'époque, avait joué un certain rôle dans la commande, mais effectivement, il n'a été appliqué qu'en 2003, après une alternance, mais parfois, c'est des choses qui arrivent. Quand je regarde ces différents canaux et la façon dont ils fonctionnent en France et à l'étranger, je trouve une grande similarité. Y compris dans l'industrie des rapports ou l'industrie des commissions qui fonctionne finalement de façon extrêmement proche dans la plupart des pays étrangers et à peu près suivant les mêmes formes. Si on allait chercher dans le détail, par exemple, à certaines périodes, j'ai collaboré de très près avec la Commission européenne et là, j'ai pu avoir le sentiment que les économistes britanniques avaient un positionnement et une influence qui pouvaient être supérieures à celles des économistes français. Enfin, juste un mot en conclusion pour permettre, le cas échéant, un rebond ultérieur. Mon sentiment, en revanche, est qu'il y a une spécificité française sur ce qu'on appelle un économiste. Pour résumer ce que je veux dire, je dirais, Jacques Attali est-il un économiste ? Xavier Muscat est-il un économiste ?
Nicolas Babrès... Muscat, c'est conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.
Est-il un économiste ? Moi, je dirais oui. Ce sont des gens qui sont compétents en matière économique, qui savent raisonner comme des économistes, qui savent développer des raisonnements économiques. Mais c'est une spécificité dans la mesure où, dans la plupart des pays étrangers, ils seraient considérés vraiment comme très atypiques. Très atypiques. Et donc là, on tombe sur un point qu'on peut développer s'il y a le temps, c'est-à-dire la spécificité du système de formation français et notamment l'existence de l'ENA, qui fait qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont de bons économistes, pas tous les anciens élèves de l'ENA, mais un certain nombre sont de bons économistes, mais ils sont devenus économistes en étant finalement assez éloignés à la fois de l'université et de la recherche.
On reviendra sur cette question de la frustration par rapport aux économistes étrangers, mais on va continuer notre tour de table avec alors quelqu'un qui est encore plus proche du pouvoir, de l'État, Benoît Coeuré. Benoît Coeuré, donc, vous êtes directeur général adjoint du Trésor français, donc à Bercy. Vous êtes économiste en chef, même, vous avez été nommé économiste en chef du ministère des Finances auprès de Christine Lagarde. Vous êtes professeur à Polytechnique, membre du cercle des économistes, comme beaucoup de ceux qui sont ici. J'avais envie de vous poser la question, comment on fait pour exprimer la stratégie du gouvernement et pour pas manier la langue de bois, pour rester économiste quand on doit défendre, par exemple, une stratégie, un chiffre de croissance et qu'on se rend bien compte que c'est pas toujours tenable. Je prends simplement la dernière prévision qui devait être de 2,5 cet été. On est redescendu à 2. Bon, je sais pas combien on est aujourd'hui. Mais donc, comment on arrive à finalement exprimer, quand on est proche du pouvoir, auprès du public, cette apparente contradiction, évidemment, puisque...
Alors, je vais répondre à la question, mais je me suis quand même demandé en venant si... Quelle était la réponse à la question posée par les organisateurs, qui est « Les économistes influencent-ils la politique économique ?» Et mais je répondrai à la question, hein, c'est promis.
Comptez sur moi.
Et je me suis dit que, au risque de simplifier, la réponse est que les économistes pèsent sur la politique économique, mais longtemps après. C'est-à-dire que ça met du temps. Ça met beaucoup de temps, c'est ce que disait Keynes, l'a dit dans des mots que tous les économistes connaissent, hein, les hommes politiques sont les esclaves d'économistes morts, mais ce qui veut dire qu'ils n'écoutent pas forcément les économistes vivants.
Jean-Michel Jarpin est toujours vivant. Donc.
Oui, mais il a fallu quelques années, comme vous l'avez signalé. Et donc, les économistes ont une influence, je pense, très profonde sur l'organisation de la politique économique, sur les institutions de la politique économique. L'indépendance des banques centrales, qui est le mode d'organisation maintenant de référence mondiale de la politique monétaire, c'est une idée d'économiste, c'est pas du tout une idée de politique. Des idées comme l'utilité d'avoir une politique d'incitation au retour à l'emploi, une action sur l'offre de travail et pas seulement sur la demande de travail. C'est des choses qui ont été dites par les économistes bien longtemps avant que les gouvernements l'appliquent. Et on pourrait multiplier les exemples. La déréglementation, la séparation entre les infrastructures et les services dans les métiers d'infrastructure, par exemple. Donc, ça se fait, ça met beaucoup de temps, et en revanche, dans la gestion de crise, et parfois aussi dans la gestion conjoncturelle, mais on peut en reparler, les économistes ne sont pas toujours écoutés, ça se fait souvent dans l'urgence, et pas toujours en tirant les leçons qui pourraient être apportées par des économistes qui sont là. Je pense à la manière dont collectivement les États ont géré la crise financière en 2008. On l'a géré, je pense, plutôt bien en colmatant les brèches et en sauvant ce qui devait l'être, etc. Il y avait des exemples bien connus, une littérature abondante sur les leçons des crises, par exemple, dans les pays scandinaves, des crises bancaires dans les pays scandinaves. Cette littérature n'a pas été très écoutée et suivie dans l'immédiat.
Donc, maintenant, Bernanke, le patron de la Fed, c'est un spécialiste de la crise des années 30. Et donc, peut-être qu'il était bien placé pour...
D'une certaine manière, la réaction collective du G20 et des pays pris individuellement à la crise de 2007-2008... tire pleinement les leçons de la crise de 29. Mais il aura quand même fallu 80 ans pour tirer pleinement les leçons de la crise de 29.
Ils sont tous morts. Hein.
Pour caricaturer un peu. Donc il y a quand même cette notion d'horizon qui peut être de temps qui peut être assez long. Alors ensuite, je pense que les gouvernements ont besoin des économistes. Ils ont besoin de toutes sortes d'économistes et de pluralité de vues en économie. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Pierre-Alain Muet. D'abord, ils ont besoin d'économistes qui sont à leur main. Je dis ça de manière non... péjorative ou critique, moi j'en fais partie, ils ont besoin d'économistes maison qui les aident à préparer les décisions, qui chiffrent les conséquences de tous les projets, en particulier en matière fiscale ou en matière de politique de l'emploi, donc qui utilisent des modèles économétriques qui permettent de chiffrer les conséquences de telle ou telle décision. Et il y a d'ailleurs, vous le savez peut-être maintenant, une obligation constitutionnelle, depuis la dernière réforme constitutionnelle, de procéder à des études d'impact quand le gouvernement dépose un projet de loi. Le Parlement est très vigilant pour vérifier que cette obligation est respectée. Alors, elle est probablement assez mal respectée aujourd'hui parce que ça vient de commencer. Mais c'est des graines qui sont semées et qui sont utiles. Et un jour viendra où la Commission des finances ou des affaires économiques du Parlement refusera de se saisir d'une loi parce qu'elle considérera que l'étude d'impact est mal faite. C'est pas encore arrivé, mais ça arrivera un jour. Et ce jour-là, la reconnaissance de l'importance de ce travail en amont sur les politiques économiques sera complète. Et je souhaite que ça arrive un jour. Alors, si possible, pas sur un dossier que j'aurais présenté, mais je pense que pour l'organisation générale, ce serait utile. Donc, les gouvernements, les hommes politiques ont besoin d'économistes qui les aident. Alors, ce métier-là est particulier et il l'oblige à une certaine discrétion, à un devoir de réserve. Les économistes qui travaillent à Bercy ou dans d'autres ministères ne s'expriment en général pas sur la place publique, ne donnent pas leurs opinions, parce qu'ils travaillent pour le gouvernement, et c'est d'ailleurs en général les mêmes qui travailleront pour le gouvernement suivant lorsqu'il aura changé. Et ça, c'est un principe républicain. Donc ça oblige à une certaine réserve parce que c'est un métier particulier. Mais sur ce point-là, je pense que les gouvernements ont aussi besoin d'un débat public pluraliste. Alors, ça a été dit, ce débat existe naturellement, en particulier grâce au Conseil d'analyse économique, grâce à tous les instituts qui existent, les cercles. Mais je pense néanmoins qu'il est probablement moins riche et moins fort en France qu'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de tradition, ou alors la tradition est embryonnaire, de l'évaluation des politiques économiques. alors que les économètres français sont à un niveau d'excellence mondiale, alors que la France, je le dirais devant Jean-Michel Charpin, a une tradition de production de données et d'excellence dans le traitement des données, notamment à travers l'INSEE, l'évaluation quantitative des politiques publiques n'a pas atteint le degré de sophistication qu'elle pourrait avoir ou le degré d'utilisation dans le débat public. Et enfin, il y a peut-être un certain divorce entre les praticiens et les théoriciens, peut-être plus qu'ailleurs. Et là, ça renvoie peut-être à la manière dont l'économie est enseignée en France. L'économie est souvent enseignée comme une langue morte, comme le grec ou le latin, et pas comme une science sociale qui sert à guider, à aider la société. Ça n'est pas une critique générale, mais il y a peut-être un divorce plus grand qu'ailleurs entre les préoccupations des universitaires académiques, qui sont guidés par des considérations de carrière, de publication, de choix du bon champ du bon champ d'études qui va assurer les bonnes publications dans les bonnes revues, et un manque d'économistes praticiens qui aient tout de suite en tête les conséquences, les applications de politique économique. C'est peut-être une critique que je ferai au système de formation français, pas seulement à l'ENA, mais à l'ensemble de l'université française. Donc si les économistes veulent être utiles à la politique économique, il faut aussi qu'ils fassent un travail d'introspection, qu'ils soient plus pluridisciplinaires et qu'ils s'ouvrent plus aux problématiques appliquées.
C'est ça, ils sont trop spécialisés, c'est un peu...
Ils sont trop spécialisés et on voit bien qu'on est face maintenant à des sujets qui sont extrêmement complexes. Alain Tranois a mentionné la question du risque systémique dans son introduction. Le risque systémique, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est comme, vous savez, à une époque, il y avait des...
Quand il arrive, là, on s'en rend bien compte.
Donc, à une époque, il y avait des petits posters qui étaient très à la mode. On voyait des taches de couleur. Et puis, quand on reculait d'un mètre, on voyait un dinosaure en relief qui apparaissait. Alors, c'est plus très à la mode. Mais le risque systémique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul. Et si on est le nez sur le poster, on ne le voit pas. Donc, cette capacité à relier les points et à utiliser différentes disciplines, la macroéconomie, la finance, la finance d'entreprise, l'économie du travail, pour ce qui s'agissant des rémunérations dans les banques, par exemple. Cette capacité à brasser plusieurs disciplines pour voir où est le problème et trouver la solution, on l'a peut-être un tout petit peu moins en France qu'ailleurs. Et là, l'université peut faire un travail d'introspection, je pense, pour améliorer un peu ça.
Alors pour revenir au concret et à ma première question initiale, parce que je ne l'ai pas oublié, la stratégie du gouvernement, parce que c'est quand même en grande partie au Trésor, à Bercy, que s'élabore quand même cette stratégie. Quand il y a un plan de relance, quand est décidé, c'est les politiques qui le décident, mais c'est quand même à Bercy, au Trésor, et éventuellement avec d'autres directions comme celle du budget ou d'autres, que c'est mis en musique. Et là, on est vraiment dans la pratique, pour le coup. Comment est-ce qu'on fait pour l'exprimer, pour la communiquer? Vous qui êtes chef économiste de Bercy, si vous finalement vous réfléchissez à votre fonction, elle est à la fois d'influence des politiques, mais elle est également tournée vers l'opinion. Comment on arrive à faire ce dialogue?
Ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut, que les politiques soient conscients de la pluralité des vues parmi les économistes, et ça fait partie de notre travail, dans la lignée de ce qui a déjà été dit. Et dans l'autre sens, il faut aussi faire la pédagogie.
Ça veut dire qu'à l'intérieur du Trésor, il y a des débats assez vifs. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, ou qu'on rapporte au ministre, au Premier ministre, au président de la République, la pluralité des débats, et que de temps en temps, on lui envoie des messages d'alerte en disant attention, telle ou telle réforme, je ne vais pas faire le lien avec les discussions précédentes, telle ou telle réforme, ça vous paraît évident, ça a d'ailleurs un sens politique, mais voilà ce qu'en disent les économistes, et puis on explique. Donc ça fait aussi partie de notre travail. À l'inverse, il faut expliquer la politique du gouvernement, bien sûr, c'est très important. Mais alors là, comme dans tout dispositif de communication, il y a plusieurs niveaux de communication. Donc il y a une communication politique du gouvernement, il y a une communication vers le grand public, il y a une communication technique. Notre rôle, c'est plutôt au niveau technique d'expliquer les hypothèses, de montrer qu'on a bien pris en compte un certain nombre de critiques d'être ouvert à la confrontation et au débat. On le fait dans différentes enceintes. On le fait à la Commission économique de la Nation. Je le fais aussi dans les enceintes dont je suis membre, au Conseil d'orientation des retraites, notamment au Conseil d'orientation de l'emploi et autres institutions qui sont des institutions pluralistes et où le débat existe avec les partenaires sociaux et avec les économistes.
Alors pour terminer de vous torturer, mais je promets après c'est fini, cette fameuse loi TEPA, donc travail, emploi, pouvoir d'achat, qui a marqué le début du quinquennat, si on fait le bilan aujourd'hui, donc presque 4 ans après, il n'en reste quasiment plus rien. Il doit rester les droits de succession et effectivement l'exonération des heures supplémentaires. Mais bon, en ce moment, vu le niveau de chômage, etc., je ne suis pas sûr que ça... Il y a énormément d'heures supplémentaires. Enfin, c'est un sujet de débat. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais pour ce qui est de déduction des intérêts d'emprunt, c'est... Il y a une réforme en cours dans le budget. Pour ce qui est également, je ne sais plus ce qu'il y avait encore dans cette loi, mais tout a quasiment disparu. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé? Ça veut dire que les économistes, comme le disait Jean-Michel Jarpin, finalement, n'ont pas réussi à convaincre les politiques qu'ils faisaient fausse route? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais que c'est gênant pour vous de répondre à cette question, mais si on voit quand même le résultat, vous êtes en train de transformer ce qu'était la politique du début du quinquennat Nicolas Sarkozy en période de croissance en autre chose, vous servant des mêmes instruments, mais maintenant qu'on est en période de crise.
Là, je répondrai ce qu'a répondu Jean-Michel Jarpin, c'est-à-dire que l'administration, elle est au service d'un gouvernement qui a un mandat politique. Donc la loi TEPA, elle était dans le programme du président de la République et dans le programme de chacun des députés qui ont formé la majorité parlementaire. Donc ce programme, il a été appliqué. Ensuite, il s'est passé des choses. Il y a eu une crise mondiale, ce qui n'était pas prévu spécialement au printemps 2007. Il y a eu un certain nombre d'évolutions. Il y a eu un plan de relance qui a utilisé les mesures TEPA, mais qui a ensuite évolué parce que la nature de la crise évoluait. Donc le contenu évolue. Il y a quand même un certain nombre de principes qui ont été fixés par le gouvernement en 2007 et qui, me semble-t-il, ont été maintenus, en particulier le principe de ne pas augmenter les impôts, de ne pas augmenter les taux d'imposition. Donc le rôle des économistes, c'est aussi de conseiller les décideurs face à une réalité qui évolue. Et on est en ce moment dans une situation où les chocs qui frappent l'économie française et l'économie mondiale sont de plus en plus, enfin, ont été très importants et très inattendus. Donc il faut aussi faire preuve d'inventivité. Alors je me permets d'insister sur ce dernier point. Je pense que si on veut être utile dans le Conseil de politique publique, il faut être inventif. Parce qu'il se passe des choses dans le monde et dans l'économie mondiale d'aujourd'hui qu'on n'a pas prévues. Et donc c'est cette capacité à transgresser les règles habituelles de la politique économique qui fait l'utilité des économistes. Alors parfois on peut transgresser à bon escient ou à mauvais escient. Regardez le débat sur le quantitative easing en ce moment, c'est une transgression et la profession des économistes est manifestement très divisée sur le fait de savoir si c'est une bonne transgression ou une mauvaise transgression. Mais il est sûr que si on était resté dans les clous, dans les sentiers battus de la politique économique en 2008, 2009 et 2010, l'économie française et le marché du travail seraient en une beaucoup plus mauvaise situation qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc c'est aussi cette faculté qu'il faut développer chez les économistes et dans les cours d'économie, chez les étudiants en économie, qui est le sens critique et la capacité à faire appel à des idées, à des théories qui sont peut-être pas à la mode, mais qui peuvent servir face à des chocs inattendus.
Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que le débat a lieu aussi au sein de la BCE, je crois qu'on aura Jean-Claude Trichet tout à l'heure, et évidemment il fait face lui aussi à une forte opposition interne au sein de la Banque centrale avec son homologue allemand sur la politique de quantitative easing européenne, qui est quand même à une toute autre échelle, c'est-à-dire bien moindre que ce qui peut être fait aux États-Unis.